Un livre est un objet digne de respect.
Absolument.
Comme un in-folio.
Entre confit-doigt et confiture, c'est confinement et chocolat. Je suis déconfit de propos aussi faciles, j'en suis même confus et confesse ma honte. Mais aujourd'hui c'est fait, alors j'ai sorti de ma bibliothèque La physiologie du goût de Brillat Savarin, illustré par Joseph Aymard. Un ouvrage non daté, mais de 1947, la première édition est de 1825. 25 ans que cet ouvrage est dans ma bibliothèque sans que je l'ouvrisse. Non mais quelle erreur! C'est un livre délicieux, un moment de gourmandise littéraire au risque d'une indigestion cérébrale. Mais il faut savoir assumer ses vices. C'est un format inuit, 17 cm par 24, et des éditions La Boétie à Bruxelles, deux tomes, 178 et 172 pages. La couverture est dite une couverture de relais du distributeur libraire Giberjeune. Elle est souple et cartonnée, sans motif, avec pour seule inscription l'auteur, le titre et le libraire. Sur la coiffe figurent les mêmes mentions. Le papier est un verger aux vergures très fines et de belle épaisseur. Le titre à l'intérieur du livre est beaucoup plus complet. C'est « La physiologie du goût » ou « Méditation théorique, historique et à l'ordre du jour » dédié au gastronome parisien, avec la mention du véritable éditeur La Boétie. Il n'en fut imprimé que 4800 exemplaires numérotés, en tout cas en principe, car mon exemplaire n'est pas justifié, c'est-à-dire qu'il n'a pas de numéro. Mais tout d'abord un mot sur les illustrations, elles sont propres à l'édition de 1947, et son auteur, Joseph Aymard, est de grand talent, avec un seul trait. Il positionne ses personnages dans des scènes très expressives et très pittoresques. Hélas, 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 mille fois hélas, mon exemplaire n'est pas justifié, car les illustrations n'ont jamais été colorées. Brillat Savarin est un magistrat dans la droite lignée familiale. Il sera député sous la Révolution, ce qui lui vaudra l'exil pour échapper au pire. C'est aussi un fin gastronome qui range l'art culinaire au titre des beaux-arts, essentiels à l'humanité, et là, il a parfaitement raison. Ce livre est une succession de réflexions thématiques, doctes, voire scientifiques ou anatomiques, de rappels historiques, autant que d'historiettes vécues et de recettes de cuisine. Pour lui, l'art de la table révèle l'état d'une société, il parle de gourmandise sociale, on peut même dire qu'il fait de l'ethnologie gastronomique. Et il sait le dire, avec un style épuré, le mot est juste et le verbe fort, la formule exacte et l'observation avisée. Mais le mieux pour l'apprécier est encore d'en extraire quelques passages, ce que nous allons faire avec les aphorismes du professeur, c'est ce qui démarre le livre, pour servir de prolégomène à son ouvrage et de base éternelle à la science. Quelle modestie! Un aphorisme, c'est comme un proverbe. L'univers n'est rien que par la vie, et tout ce qui vit se nourrit. Les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Ceux qui s'indigèrent et qui s'enivrent ne savent ni manger ni boire. Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil. Convier quelqu'un, c'est se charger de son bonheur pendant tous les temps qu'il est sous notre toit. Ensuite, dans le corps du texte, dans le chapitre du goût, j'en extrais un tout petit passage. Le goût paraît avoir deux usages principaux. Il nous invite, par le plaisir, à réparer les pertes continuelles que nous faisons par l'action de la vie. Il nous aide à choisir, par les diverses substances que la nature nous présente, celles qui sont propres à nous servir d'aliments. Et justement, dans le chapitre de l'appétit, voilà ce qu'il nous déclare. Le mouvement et la vie occasionnent dans le corps vivant une déperdition continuelle de substances. Et le corps humain, cette machine si compliquée, serait bientôt hors de service si la Providence n'y avait placé un ressort qui l'avertit du moment où ses forces ne sont plus en équilibre avec ses besoins. Ce moniteur est l'appétit. On entend par ce mot la première impression du besoin de manger. En même temps, l'âme s'occupe d'objets analogues à ses besoins, La mémoire se rappelle les choses qui ont flatté le goût, et l'imagination croit les voir. Il y a là quelque chose qui tient du rêve. Ensuite, dans le chapitre sur l'histoire philosophique de la cuisine, voilà ce qu'il nous dit. On a ressuscité du grec le mot « gastronomie ». Il a paru doux aux oreilles françaises, et quoique à peine compris, il a suffi de le prononcer pour porter sur toutes les physionomies le sourire de l'hilarité. On a commencé à séparer la gourmandise de la voracité et de la goinfrerie. On l'a regardé comme un penchant qu'on pouvait avouer, comme une qualité sociale, profitable aux convives, utile à la science, et on a mis les gourmands à côté de tous les autres amateurs qui ont aussi un objet connu de prédilection. Un esprit général de convivialité s'est répandu dans toutes les classes de la société, les réunions se sont multipliées et chacun, en régalant ses amis, s'est efforcé de leur offrir ce qu'il avait remarqué de meilleur. Dans le chapitre du plaisir de la table, voilà la question. Comment doit être fait, en l'an de grâce 1825, un repas pour réunir toutes les conditions qui procurent au suprême degré le plaisir de la table ? Il en cite un certain nombre, je n'en ai retenu que quelques-unes. Que le nombre des convives n'excède pas 12, afin que la conversation puisse être constamment générale. Que la salle à manger soit éclairée avec luxe, le couvert d'une propreté remarquable, et l'atmosphère à la température de 13 à 16 degrés au thermomètre de Réaumur. Que les hommes soient spirituels sans prétention, et les femmes aimables, sans être trop coquette, que les mets soient d'un choix exquis, mais en nombre resserré, et les vins de première qualité, que la progression pour les premiers soit des plus substantiels aux plus légers, et pour les seconds, des plus lampants aux plus parfumés. Que le mouvement de consommation soit modéré, le dîner étant la dernière affaire de la journée. Que la retraite ne commence pas avant 11 heures, mais qu'à minuit, tout le monde soit couché. Dans le long chapitre sur les aliments, il nous fait une dissertation sur l'influence financière du dindon. L'importation des dindons est devenue la cause d'une addition importante à la fortune publique et donne lieu à un commerce assez considérable. Au moyen de l'éducation des dindons, les fermiers acquittent plus facilement le prix de leurs baux. Les jeunes filles amassent souvent une dot suffisante et les citadins qui veulent se régaler de cette chair étrangère, eh bien, ils sont obligés de céder leurs écus en compensation. Dans cet article purement financier, les dindes truffées demandent une attention particulière. J'ai quelques raisons de croire, en effet, que depuis le commencement de novembre jusqu'à la fin de février, il se consomme à Paris 300 dindes truffées par jour, en tout 36 000 dindes. Le prix commun de chaque dinde, ainsi conditionné, est au moins de 20 francs, en tout donc 720 000 francs, ce qui fait un fort joli mouvement d'argent. À quoi il faut joindre une somme pareille pour les volailles, faisans, poulets et perdrix, pareillement truffés. Et justement, un peu plus loin, dans le même chapitre, il nous parle de ces truffes, en disant « J'ai rassemblé mes souvenirs, j'ai consulté les hommes qui, par état, sont investis de plus de confiance individuelle. Je les ai réunis en comité, en tribunal, en sénat, en aréopage, et nous avons rendu la décision suivante pour être commentée par les littérateurs du 21e siècle, toujours la modestie. La truffe n'est pas un aphrodisiaque positif, mais elle peut, en certaines occasions, rendre les femmes plus tendres et les hommes plus aimables. Et à la question « les truffes sont-elles indigestes ?», nous répondrons négativement. Cette décision officielle et en dernier ressort est fondée, premièrement, sur la nature de l'objet même à examiner. Deuxièmement, sur nos observations pendant plus de 50 ans qui se sont écoulées sans que nous ayons vu en indigestion aucun mangeur de truffes. Troisièmement, sur l'attestation des plus célèbres praticiens de Paris, cité admirablement gourmande et truffivore par excellence. Quatrièmement, enfin, sur la conduite journalière de ces docteurs de la loi qui, toutes choses égales, consomment plus de truffes qu'aucune autre classe de citoyens. Et il termine son ouvrage par une série de textes qui n'ont pas pu entrer dans le corps du livre, tant qu'il les additionne, et là-dedans, il y a quelques poèmes. Cette poésie, celle-ci, est de Motin, qui, dit-on, fit le premier en France des chansons à boire. C'est Bacchus que nous devons suivre, le nectar dont il nous enivre a quelque chose de divin, et quiconque a cette louange d'être homme sans boire du vin, si l'on buvait, serait un ange. Le vin me rit, je le caresse, c'est lui qui bannit ma tristesse et réveille tous mes esprits. Nous nous aimons de même force, je le prends, après j'en suis pris, je le porte, et puis il m'emporte. Et je terminerai cette chronique par cet aphorisme du professeur, que je vous ai gardé pour la fin. Le créateur, c'est le jour, en obligeant l'homme à manger pour vivre, l'y invite par l'appétit et le récompense par le plaisir.
Comme un in-folio.